Chapitre 2. Marie dormit d'un sommeil agité. Bouquet, le revenant, Claude et Madame Jacquot se confondaient dans des rêves fantastiques dont elle s'éveilla plusieurs fois toute tremblante. Lorsque la pendule sonna 6 heures dans la chambre contiguë, elle alluma sa lampe et entra dans la cuisine où elle entendait son hôtesse aller et venir en chantant de sa voix cassée un psaume dont elle accompagnait régulièrement ses occupations du matin. « Déjà levée, dit-elle en voyant Marie s'approcher du foyer, près duquel elle surveillait son lait. « N'avez-vous pas bien dormi ?»« Pas très bien, il y a longtemps que je suis éveillée. » »« Mais vous avez froid, vous êtes toute pâle. Prenez vite une tasse de lait en attendant le déjeuner. » « Je voudrais bien être ce soir, dit Marie en s'asseyant sur un escabeau près du foyer. Je redoute tant cette première journée et surtout cet après-midi où j'aurai les apprentis. Comment parviendrai-je à me faire respecter de ces grands garçons ?» Et la jeune fille soupira en pensant aux difficultés, aux conflits qui se préparaient peut-être. Mais elle avait trop de jeunesse et de ressort pour s'affaisser sous une appréhension quelconque. Le conseil que le passeur lui avait donné la veille lui revint en mémoire. « Je m'efforcerai, se dit-elle, de montrer toujours une volonté calme et ferme, et s'ils veulent résister, ils verront bien qu'ils sont le pot de terre contre le pot de fer. » Puis elle courut dans sa chambre préparer ses leçons. Pendant le déjeuner, on ne causa guère. Marie était préoccupée et Madame Jacquot se taisait pour ne pas troubler ses réflexions. Quant aux deux frères, après avoir salué la jeune fille, ils n'avaient plus ouvert la bouche que pour y introduire de grandes fourchetées de pommes de terre frites. Cependant, Fritz n'avait point oublié l'honorable mission dont il s'était chargé, et lorsque Marie, après être allée chercher ses livres, revint enveloppée dans son manteau et prête à partir, elle le trouva coiffé d'un bonnet à poils et chaussant ses grandes bottes pour l'accompagner. « Où allez-vous donc ? » lui demanda-t-elle. « Vous faire le chemin. Il est tombé beaucoup de neige cette nuit. »« Comme c'est aimable à vous. Je me demandais justement comment je ferais pour sortir de ces menées. Je suis bien reconnaissante de votre obligeance. » Fritz eut comme un remords de recevoir ces compliments dont il pensait ne mériter que la moitié et il expliqua à Marie qu'il ne faisait qu'obéir à une recommandation du pasteur. « C'est égal, répondit-elle, vous sortez pour moi par un bien vilain temps. » Le ciel ne s'était en effet pas éclairci depuis la veille, le vent continuait à souffler avec fureur, chassant devant lui des nuées de gros flocons. La neige avait une épaisseur moyenne de 3 pieds et de 4 ou 5 dans les endroits où le vent l'avait accumulée. La jeune fille marchait silencieuse derrière son guide, s'efforçant de suivre ses longues enjambées et de ne pas trop mouiller le bord de sa robe. Ils arrivèrent à l'école sans avoir prononcé un mot. « Merci et au revoir, » dit-elle seulement en faisant tourner dans la serrure la clé qu'on lui avait remise le soir précédent. Puis elle entra dans sa classe. Le poêle avait été chauffé de bonne heure, de sorte qu'elle y trouva une tiède température. Elle ôta son manteau et son capuchon, arrangea ses livres dans le pupitre, puis, se recueillant un instant, implora la bénédiction divine sur l'œuvre qu'elle allait commencer. Des voix d'enfants se firent entendre derrière la porte, et bientôt, 4 ou 5 fillettes entrèrent timidement, regardant d'un œil furtif et curieux la nouvelle régente. À 8 heures, la classe était au grand complet, 16 garçons et 15 filles réparties en 3 divisions. La famille Vermeau avait envoyé de nombreux représentants qu'on reconnaissait facilement à leurs joues barbouillées de mélasse. Du reste, il y en avait de toutes sortes. De gros garçons bouffis comme des zéphyrs, de toutes petites filles menues comme des souris, des naïfs qui ouvraient de gros yeux tout ronds, des sournois qui regardaient en dessous, les uns bien au chaud dans de solides pantalons de mylène, les autres mal habillés, mal peignés et mal mouchés, les fils de l'aristocratie de l'endroit, ornés de bas de laine et d'ardoises neuves, et la plèbe, dépourvue de mouchoirs de poche. Quand Marie eut fait connaissance avec son peuple, elle commença un examen général afin de trouver le point de départ de son enseignement. Elle promulgua en même temps ses lois, prohibant sévèrement le commerce des billes, des noix et des pommes, le babil, les coudes sur la table et le bruit des pieds sous les bancs. deux petits garçons, pris en contravention, furent immédiatement privés de leurs pommes. Un autre qui, en guise de dépêche galante, avait lancé son sabot dans le banc des filles, vit le projectile confisqué, et comme il n'avait point de bas, il dut, pendant toute la récréation, se tenir sur une jambe comme une cigogne, après quoi Marie, jugeant la punition suffisante, lui avait rendu son sabot. Puis les leçons suivirent leur cours sans aucune interruption, car la mise en vigueur du règlement avait frappé tous les enfants d'une sainte terreur. Tout marchant dans le plus grand calme jusqu'à 11 heures, et Marie, assez satisfaite de ses débuts, mais un peu fatiguée d'avoir parlé si longtemps, revint avec plaisir à la maison, où Madame Jacquot écouta ses récits avec sympathie. L'après-midi, cependant, ce ne fut pas sans un certain tremblement que la jeune fille rentra dans sa classe. Elle savait bien que la première impression est celle qui dure. Qu'un de ses grands élèves se révoltât et qu'elle restât désarmée devant lui, c'en était fait de son autorité. Si donc un cas d'insubordination se présentait, comment obtiendrait-elle la victoire ? Il était évident qu'elle ne pouvait exercer aucune contrainte corporelle, ce qu'elle eût d'ailleurs considéré comme contraire à sa dignité. À mesure que ses grands garçons et ses grandes filles, au nombre de 12, entraient et se plaçaient dans les bancs, elle les examinait avec quelque inquiétude, cherchant à deviner leur caractère dans leur physionomie déjà accentuée. Bouquet arriva le dernier, jeta ses cahiers au bout d'une table, puis s'y accouda d'un air maussade. « Faut-il les traiter en jeunes gens ou en gamins ?» se demandait Marie. « Je n'oserais jamais les tutoyer, mais s'ils allaient s'en prévaloir pour devenir plus hardis. » Les 5 jeunes filles avaient des physionomies agréables et l'air posé. Plusieurs des garçons paraissaient assez lourds et rustres, mais bons enfants pourtant. Un seul des plus décidément à Marie. C'était un long sire dégingandé dont les bras et les jambes avaient des mouvements de pantin. Sa bizarre figure, avec son front déprimé et ses mâchoires proéminentes, qui donnaient à la bouche l'apparence d'un museau, faisait penser à un orang-outan un peu perfectionné. Darwin eût pu le citer à l'appui de ses théories. De petits yeux, pétillant d'une inquiétante vivacité et une chevelure ardente, complétaient ce séduisant assemblage. L'entrée de cet étrange individu avait fait courir un sourire et un chuchotement dans tous les bancs.
« Ah, voici le mignon !»«
Bon, il y aura à rire !»«
Viens ici, paillasse !»
Telles furent les salutations qu'on entendit murmurer de tous côtés, tandis que le nouveau venu, répondant par une grimace, allait se placer au fond de la salle. Marie, ayant réclamé le silence, lut à haute voix le registre afin d'apprendre les noms de ses élèves. Lorsqu'elle arriva à celui de Philippe Roulet, une voix de fossé, évidemment contrefaite, dans l'intention d'exciter le rire, lui répondit. Elle leva les yeux, posa sa plume, et pendant quelques secondes, regarda froidement le farceur, qui n'était autre que le singulier garçon dont nous venons de tracer le portrait. Puis, sans le quitter des yeux, elle prononça une seconde fois son nom. Ce regard glacial lui imposa probablement, car il abandonna sa voix de flûte et répondit cette fois avec un timbre plus naturel. Le programme des leçons, suspendu au-dessus du pupitre, indiquait pour cette heure géographie. Marie déroula la map monde et, par un examen préliminaire, acquit bientôt la certitude que la science géographique de ses élèves se réduisait à quelques notions très élémentaires et très vagues. « Commençons par le commencement, se dit-elle. Aimé de Rose, montrez-nous l'ancien et le nouveau monde. Philippe Roulet, combien de continents connaissez-vous dans l'ancien monde ?»«
4.
Lesquels ?»«
Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. »
Toute la classe partit d'un éclat de rire, mais Marie ne sourcilla pas. Renvoyant le mauvais plaisant à sa place, sans même l'honorer d'une réprimande, elle continua calmement sa leçon et ne lui adressa plus la parole. Ainsi frappé d'ostracisme et s'ennuyant dans le coin reculé où il s'était placé, il charma les loisirs de son exil en nouant son mouchoir de poche rouge de manière à en former une ressemblance de souris qu'il s'amusa ensuite à balancer par sa longue queue. Marie, voyant qu'heureusement aucun de ses camarades ne tournait la tête pour le regarder, le laissa tranquillement se livrer à ses jeux innocents.
Au bout d'un quart d'heure, elle avait complètement conquis l'attention de son petit auditoire. Ce n'était du reste pas très difficile, car le nombre restreint de ses élèves lui permettait de les voir tous à la fois et de les interroger directement très souvent pour chasser la distraction et l'apathie. D'ailleurs, il y avait dans son enseignement tant d'animation et d'entrain que tous y laissèrent intéressés. Bouquet se montra d'abord rechigné comme de coutume, mais finalement, il se laissa entraîner comme les autres et la précision de ses réponses donna à Marie une assez bonne opinion de son intelligence. Cependant, cette opinion se modifia bientôt. Lorsque la leçon de géographie terminait, on passa au calcul mental, Bouquet se distingua par l'absurdité de ses réponses. Il avait l'air de n'y voir que du feu, et un sauvage de la mer du Sud lui en eut, je crois, remontré au sujet des centimètres et des grammes. Pour le calcul écrit, ce fut encore plus mal. Ces chiffres affectaient des formes de haute fantaisie, et il ne vint même pas à bout d'une division simple. Je vous donnerai des problèmes à part, lui dit Marie, car vous n'êtes pas au niveau des autres élèves. Puis elle s'assit à côté de lui, et tandis que le reste de la classe faisait une règle de trois, elle s'efforça patiemment de l'initier au mystère de la division. Il écouta d'un air résigné, mais assez attentif, et Marie, en rencontrant le regard de ses yeux intelligents, espéra qu'il avait compris. Point du tout. Lorsqu'il dut répéter l'explication, il s'embrouilla, hésita, recommença et finit par rester court. « C'est pourtant bien simple, » dit Marie, un peu impatientée. « Voyez donc. » Mais en cet instant, un « kikériki » retentissant s'éleva à l'autre bout de la classe. Marie se leva indignée. C'était l'ingénieux Philippe Roulet qui se rappelait ainsi à l'attention générale. Du reste, il baissait maintenant les yeux d'un air candide et paraissait profondément absorbé dans son problème. La jeune fille sentit d'abord la rougeur de la colère lui monter au front. Mais elle réprima ce premier mouvement d'irritation et ne parla que lorsqu'elle fut sûre que sa voix ne tremblerait pas. « Philippe Roulet, dit-elle calmement, cette classe n'est pas un poulailler. Veuillez aller chez vous, continuer vos exercices. » Il releva la tête et prit un air stupéfait. « Vous m'avez comprise, sortez à l'instant. » Il promenait ses yeux autour de la classe comme pour chercher à qui ses paroles pouvaient bien s'adresser. Marie vint se placer en face de lui, le regarda dans les yeux et répéta avec le même calme « Sortez !» Mais son cœur battait bien fort car elle doutait que sa seule volonté fût une arme suffisante dans cette lutte où son autorité était en jeu. Serais-je, moi, le pot de terre et lui le pot de fer ? Se demandait-elle avec anxiété. À mesure que les secondes s'écoulaient, cette anxiété devenait de l'angoisse. Debout devant le rebelle, les bras croisés, silencieuse, car elle ne voulait pas répéter encore un ordre intimé déjà trois fois, sentant que les autres élèves prenaient plaisir à cette scène piquante, elle cherchait une issue et n'en trouvait point. Trois mortelles minutes s'écoulèrent ainsi. Philippe Roulet ne se sentait point non plus à l'aise. Le regard froid et persistant de Marie commençait à le gêner singulièrement. De plus, il entrevoyait les conséquences possibles de sa rébellion et la silhouette redoutée du directeur, se dessinant à l'horizon de ses craintes, fit mollir un peu son entêtement. À la fin, il réfléchit qu'il y aurait moyen de battre en retraite tout en conservant les honneurs de la guerre. Se levant, il dit à Marie du ton le plus naïf « Ça m'arrangerait tout à fait de sortir à présent. J'ai une commission à faire au village. Est-ce que je peux m'en aller ?» Puis, sans attendre une réponse, « Merci beaucoup. Bonsoir à la compagnie. » Et, prenant son bonnet de loutre, il partit. Marie était soulagée d'un grand poids, bien que la victoire n'eût pas été aussi complète qu'elle l'eût désirée. Cette scène l'avait légèrement excitée et l'inconcevable stupidité de Bouquet, lorsqu'elle recommença sa démonstration, acheva de la dépiter. « Comptez sur vos doigts !» lui dit-elle un peu vivement, lorsqu'elle l'entendit énoncer comme un axiome indiscutable que 9 moins 6 égale 4. L'instant d'après, il déclara formellement que 7 fois 8 égale 43. À l'ouïe de ces énormités, Marie découragée haussa les épaules. « Il faudra reprendre le livret, dit-elle. Mais voici 4 heures, vous pouvez vous retirer. » À ces mots, les garçons se levèrent en se bousculant bruyamment, enfoncèrent leurs bonnets jusqu'aux oreilles et voulurent sortir sans plus de cérémonie. Quoiqu'il fût désagréable à Marie de les rappeler au devoir de la civilité à son égard, elle se dit qu'il fallait cependant le faire une fois pour toutes. « Reprenez vos places, » dit-elle en élevant un peu la voix. Ils obéirent lentement et d'un air surpris. « Georges Martin, » reprit-elle, lorsque le silence fut rétabli, « voudriez-vous me montrer s'il vous est possible de vous lever sans culbuter le banc ?»« Bien, je suis charmée de voir que vous le pouvez. » « Et vous, berceau, pourriez-vous m'apprendre si l'usage de dire bonjour et bonsoir n'est pas connu au Crozet ? Du reste, il paraît que vous craignez tous beaucoup de vous enrhumer, puisque dans cette chambre bien chauffée, vous enfoncez si solidement vos bonnets sur vos têtes. » Comme elle avait prononcé ce petit discours sans la moindre nuance railleuse, ils n'en saisirent pas immédiatement l'intention et ils restaient là, se regardant d'un air déconcerté. Les jeunes filles, plus promptes à comprendre, riaient sous cape. À la fin, l'une d'elles poussa du coude le premier du banc. « Allons, ôte voir ton bonnet !» lui souffla-t-elle. Il obéit, le second l'imita, puis le troisième, et finalement, les bonnets disparurent sur toute la ligne. « Vous pouvez vous retirer !» dit Marie en réprimant son envie de rire. « Bonsoir !» « Bonsoir, mademoiselle, » répondirent-ils avec un ensemble parfait, puis ils sortirent tranquillement. « Elle nous fait marcher comme des marionnettes, » dit Georges Martin lorsqu'il fut dehors. « C'est curieux, elle ne dit pas un mot plus haut que l'autre pourtant. » « Mais elle parle sec, » fit son camarade. « Croyez-vous que Lumignon ait été obligé de caler? Il faudra lui monter une faveuse scie. » Marie se hâta de mettre son manteau et son capuchon et sortit. Ce fut avec délice qu'elle sentit une bise piquante rafraîchir son front brûlant et l'envelopper tout entière de son haleine froide mais vivifiante. Au lieu de revenir directement à la maison, elle prit un chemin détourné afin de respirer plus longtemps cet air âpre dans lequel il lui semblait prendre un bain de force et d'énergie. Ses nerfs excités par les émotions de cette première journée d'école se détendaient peu à peu et le mal de tête qui avait accompagné cette excitation se dissipa bientôt complètement. Sans s'inquiéter de savoir où il la conduirait, elle prit le premier sentier frayé qu'elle aperçut et se trouva bientôt au sommet du plateau, près du sorbier solitaire dont nous avons déjà parlé. De là, on domine la vallée, qui s'étend droite et peu profonde, entre deux chaînes de collines aux croupes arrondies et boisées. Des rochers sévères la ferment à l'une de ses extrémités, comme une muraille sans issue, tandis que, du côté du nord, elle s'élève graduellement en une pente douce qui se confond avec le ciel dans le lointain bleuâtre. La neige, qui aujourd'hui couvre les collines et descend au fond de la vallée comme un tapis déroulé, étend sur tout le paysage le charme de son calme et de sa pureté. Là-bas, le village allume ses feux un à un comme de tremblantes étoiles. Il semble se blottir, frileux, dans sa couche de neige moelleuse et rassemble en groupe serré ses maisons de pierre autour de ses deux clochers. Cependant, les ombres montant de la vallée envahissaient déjà le plateau. Marie reprit rapidement le chemin de la maison. Tout à coup, à un détour du sentier, elle s'arrêta comme si un obstacle lui barrait le passage. Quelqu'un était assis dans la neige au bord de l'étroit chemin. C'était un enfant qui, pour laisser passer la jeune fille, retira précipitamment ses jambes étendues avec un mouvement si craintif qu'elle en fut frappée et s'arrêta. D'ailleurs, il lui semblait que ses fonctions d'institutrice lui donnaient comme une sorte de droit maternel sur tous les enfants du voisinage. « Que fais-tu ici ? » lui demanda-t-elle en se baissant pour voir son visage incliné. « J'arrange mon soulier, il me faisait mal, » répondit-il d'un ton plaintif. Son soulier, pauvre enfant, il fallait vraiment de l'imagination pour voir encore un soulier dans ce misérable reste de semelle attaché et retenu tant bien que mal par des bouts de ficelle. Le vieux bas de laine troué laissait voir un pied tout gonflé d'engelure. Marie en eut le cœur serré. « Il ne faut pas rester ainsi dans la neige, » dit-elle d'un ton compatissant. « Lève-toi et viens avec moi. Je demeure tout près, dans cette maison-là, vois-tu ?
et nous arrangerons ton soulier pendant que tu te chaufferas. » Puis, voyant qu'il essayait péniblement de se lever, elle tendit la main pour lui venir en aide. Lorsqu'il fut debout, elle s'aperçut qu'il boitait et qu'il devait, pour marcher, s'appuyer sur un bâton. Plus d'une jeune fille reculait à l'idée de cheminer dans ce sentier étroit, côte à côte avec un mendiant déguenillé, mais le cœur ému de Marie fit taire ses légers scrupules de délicatesse. Voyant que la jambe boiteuse du pauvre garçon et ses pieds enraidis par le froid lui refusaient presque leur service, elle prit son bras et, le soutenant ainsi de son mieux, elle se dirigea avec son protégé vers la maison. « Comment vous appelez-vous ? » demanda Marie au garçon qu'elle ne tutoyait plus depuis qu'elle avait remarqué l'air âgé de sa figure amaigrie. « Joseph André. Où demeurez-vous ? » ?»« Nulle part, » répondit-il d'un ton exprimant tant de fatigue et de découragement que Marie sentit ses yeux se remplir de larmes. « N'avez-vous donc point de parents ? » ?»«
Non, je n'en ai plus. »
« Mais alors, comment vivez-vous ? » ?»«
Je fais ce que je peux, mais ce n'est pas grand-chose. On ne veut pas de moi pour garder les vaches, je ne suis pas assez leste. »
« Et en hiver ?»«
Je... les gens me donnent toujours quelque chose. »
Marie remarqua cette réticence et se demanda si le pauvre garçon avait, dans sa misère, conservé une étincelle de cette légitime fierté qui fait qu'on répugne à prononcer ce mot humiliant. « Je m'en dis. » En ce moment, ils arrivaient devant la maison. Madame Jacquot, qui les avait vus de loin, accourut toute surprise.
« Qui est-ce que vous m'amenez là ? » s'écria-t-elle. « Comment, c'est Joseph André ? Il y a longtemps qu'on ne t'avait vu, mon pauvre garçon. Tu es à moitié gelé, il me semble. Allons, assieds-toi près du foyer et chauffe-toi, tu auras bientôt une tasse de café. » « Je commençais à être en peine à votre sujet, Marie, et Fritz parlait d'aller voir si le revenant de chez Vermeaux ne vous aurait point joué un tour. »«
J'ai fait une petite promenade là-haut sur le plateau. »«
Et vous avez rencontré Joseph en chemin ? Je ne pouvais imaginer avec qui je vous voyais revenir, bras dessus, bras dessous. Je pense que Joseph n'a pas été souvent à pareille fête. »
Le pauvre vagabond déguenillé n'avait pas senti souvent, en effet, la douce main d'une jeune fille le toucher et le soutenir. Repoussé par les uns, tenu à distance même par les plus charitables, il s'était accoutumé à voir les enfants fuir son contact et les ménagères balayer soigneusement la place où il s'était assis. Il se savait laid, disgracieux, malpropre et se tenait instinctivement à l'écart pour éviter les rebuffades et les exclamations de dégoût qu'il avait trop souvent entendues. Son cœur froissé et rebuté sentit donc avec une reconnaissance d'autant plus vive la douce charité de Marie. Cet aimable visage qui s'était penché sur lui, ses yeux dans lesquels il avait vu briller des larmes, il les contemplait maintenant avec une gratitude timide et muette. Le souffle de la sympathie avait trouvé en lui une étincelle à demi éteinte qui s'était ranimée et réchauffée sa pauvre âme glacée par l'isolement, en même temps que la flamme du foyer ramenait la chaleur dans ses membres transis.
« Et d'où viens-tu comme ça, Joseph ? » demanda Madame Jacquot tout en dressant la table du goûter.
« J'ai été toute la semaine passée à faire des fagots chez Albin Mercier du Cerneux.
Il aurait bien pu te garder cet hiver.
Non, il n'avait plus d'ouvrage pour moi.
Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ?
Je ne sais pas, dit-il avec un soupir.
Belle réponse pour un garçon de ton âge. Tu as bien 15 ans, n'est-ce pas ?
Oui.
Marie fit un mouvement de surprise. Ses membres frêles, cette poitrine étroite, cette chétive apparence lui semblaient dénoter 12 ans tout au plus. Il est vrai que, ainsi qu'elle l'avait déjà remarqué, les yeux tristes, les joues flétries, le visage maigre et soucieux du vagabond contrastaient avec sa stature enfantine.
« Sais-tu ce qu'il te faut faire ? » continua Madame Jacquot. « Tu devrais te mettre quelque part en apprentissage. »«
Tout le monde me le dit, mais personne ne me prend, » répondit-il avec une certaine amertume.
« Ça se comprend, » fit naïvement la vieille dame. « Mais si tu allais un peu sur France, dans ta commune, par exemple, tu trouverais bien à te placer. »«
Non, les braves gens ne veulent pas de moi, et moi, je ne veux pas des autres. »«
Madame Jacquot posa ses assiettes pour regarder Joseph en face.
« Qu'est-ce que tu entends par les autres ?»«
J'entends les contrebandiers, les ivrognes, ceux qui m'envoient mendier au lieu de m'apprendre un état. J'aime mieux rôder le pays que de retourner chez eux, quand même je sais bien qu'on me trouvera un jour mort dans la neige. »
On n'avait jamais entendu Joseph André prononcer un aussi long discours. Madame Jacquot le regardait stupéfaite.
« c'est bon, dit-elle enfin. Fais comme tu voudras, chacun son goût. Voici ta tasse de café avec un bon morceau de pain et de fromage. Venez vous asseoir à table, Marie. »
Quand les deux frères entrèrent dans la cuisine pour le goûter, ils saluèrent Joseph avec une certaine cordialité.
« Il ne fait pas un beau temps pour les voyageurs, hein ?» dit Fritz, « surtout quand on a ces machines-là aux pieds. Dites donc, mère, est-ce qu'on ne pourrait pas lui trouver une vieille paire de chaussures ?»«
J'en ai, moi, » dit vivement Marie.
Elle courut dans sa chambre et en revint avec d'excellentes bottines de gros cuir.
« Est-ce que vous allez lui donner cela ?» s'écria Madame Jacquot, révoltée dans ses instincts de ménagère par cette générosité exagérée.
« Je ne mets jamais ces bottines. Elles sont trop larges et me fatiguent. Il vaut mieux les donner que de les laisser moisir dans l'armoire. »«
Rien ne moisit dans mes armoires, » répliqua Madame Jacquot, décidément vexée.
« Du reste, ce ne sont pas mes affaires. Faites comme vous l'entendrez. »
Marie n'avait pas attendu cette permission pour faire essayer à Joseph sa nouvelle chaussure, et l'air ravi avec lequel il regarda d'abord ses pieds, puis la donatrice, lui parut un remerciement suffisant.
« Où comptes-tu dormir ?» demanda Madame Jacquot, dont la mauvaise humeur ne durait jamais longtemps.
« Il y a à l'écurie un tas de paille où tu serais très bien. Tu ne fumes pas, j'espère ?»«
Non, » répondit-il d'un air indécis.
« On dirait que tu n'en es pas sûr. Voyons, est-ce que tu fumes ?»«
Mais non !»«
Eh bien, Fritz, prends le falot pour le conduire. Bonne nuit, mon garçon. Fritz, n'oublie pas de voir si la fenêtre qui n'a point de barreau est bien fermée. Il faut absolument que le vieux Klein vienne la semaine prochaine refaire ses grillages. »
Après avoir aidé Madame Jacquot à remettre en ordre la vaisselle du goûter, Marie s'installa dans la chambre comme le soir précédent et s'occupa à préparer ses leçons du lendemain pendant que les fuseaux allaient leur train en faisant entendre leurs jolis cliquetis. Mais bientôt, un bruit de pas retentit dans le corridor.
« Qui est-ce qui nous arrive si tard ?» dit Madame Jacquot en allant m'ouvrir.
« Bonsoir, Henri-Louis. Secouez un peu vos bottes, autrement vous apporterez un tas de neige dans la chambre. »
Bonsoir Henriette, bonsoir à toute la compagnie, dit le nouvel arrivant, un homme d'une cinquantaine d'années, pourvu d'une paire de petits yeux noirs très vifs. C'est à mademoiselle la régente que j'en veux.
Eh bien, asseyez-vous, Henri-Louis, ça coûte le même prix, dit Fritz en lui avançant une chaise.
« Merci, c'est par rapport à mon garçon que j'ai deux mots à vous dire, mademoiselle. »«
Qui est votre garçon ?» demanda Marie.
« Philippe Roulet. »«
Eh bien, ayez la bonté de vous expliquer. »
Henri Roulet se pencha en avant et considéra la jeune fille pendant quelques minutes tout en se frottant les genoux.
« Je pense que vous êtes encore assez jeune, » dit-il enfin.
« Je le pense aussi, » répondit Marie, à qui les manières du personnage semblaient étranges.
« Et comme ça, est-ce qu'il y aurait de l'indiscrétion à demander votre âge ?»«
On croirait que vous êtes chargé de faire le recensement, » dit Madame Jacquot. « Pourquoi faut-il que vous sachiez l'âge de Mademoiselle Calam ?»«
Ah, vous vous appelez Mademoiselle Calam. On ne le savait pas encore. Votre prénom est Louise, hein ?»«
Non. »«
Tiens, je croyais. »
Cécile, alors ?
Non plus.
C'est drôle, moi je m'appelle Henri-Louis, fit-il avec l'espoir que cet élan de confiance serait payé de retour.
Je suis bien aise de l'apprendre, mais je ne pense pas que vous soyez venu exprès pour me dire cela.
Non, c'était par rapport à Philippe. Il paraît qu'il ne s'est pas tant bien conduit cet après-midi.
Vous voulez dire qu'il s'est fort mal conduit ?
Oui, oui, il m'a raconté la chose. « Voyez-vous, il ne faut pas le prendre en mauvaise part. C'était comme ça un moment de gaieté. C'est un farceur, mon Philippe, mais il n'y met point de malice.
Ainsi, aujourd'hui, à dîner, il a tiré la chaise à notre domestique au moment où il allait s'asseoir. Antoine est tombé les quatre fers en l'air et même il est allé frapper de la tête sur le foyer. Alors, comme il ne bougeait pas, Philippe est devenu tout pâle. Il est allé relever, lui a demandé s'il s'était fait mal et tout. Je vous jure que ce n'est pas un méchant garçon. Je lui aurais donné une pile soignée pour sa peine, dit Fritz en se détournant sur sa chaise à vis. Votre Philippe est un mauvais singe, Henri-Louis. Il finira par se faire arranger comme il le mérite. Il est trop gai, voilà tout, répondit le père de son air placide. Alors, mademoiselle la régente, il peut rentrer en classe, je suppose. Oui, après qu'il m'aura fait devant la classe entière des excuses de sa conduite. Oh oh, c'est bien des affaires. Il me semble que vous êtes un peu jeune pour être si exigeante. Il ne s'agit pas de mon âge, mais de mes fonctions, répondit-elle tranquillement. Je dois obtenir de tous mes élèves l'obéissance et le respect. Et si Philippe ne veut pas faire ses excuses? Il ne rentrera pas en classe avant de les avoir faites. Alors, il ne fréquentera pas l'école cet hiver. Comme vous voudrez, ses absences ne seront pas justifiées, j'en ferai rapport et vous paierez l'amende. Henri-Louis changea subitement de ton. Je veux bien faire ce que je pourrai. Mais Philippe a mauvaise tête. Si je ne pouvais pas le décider, il ne serait pourtant pas juste de me faire payer. Les parents sont responsables pour leurs enfants, dit Fritz. C'est dans la loi. D'ailleurs, vous n'avez qu'à prendre une bonne baguette de noisetier et à épousseter votre Philippe pendant 10 minutes. Je vous garantis qu'il marchera ensuite. C'est un capon qui cédera toujours à des raisonnements de cette espèce. On verra. Je suis pour la douceur, moi. Mais pour parler d'autre chose, comment avez-vous trouvé votre dernier litre de gentiane, Henriette ? Je n'en ai pas encore goûté, mais Fritz en a bu une larme ce matin. Je pense que tu t'en es léché les lèvres, hein, Fritz ? Oui, elle n'était pas mauvaise. Rien que ça ? Ma foi, tu n'es pas connaisseur alors et tu ne mérites pas de boire la gentiane roulée. « Pas mauvaise. Sais-tu bien qu'on est venu de Corteillode exprès pour être sûr d'en avoir, et des messieurs joliment huppés qui m'ont dit que ma gentiane était un vrai nectar, c'est-à-dire la boisson des dieux, comme c'est écrit dans le dictionnaire. Ah, tu ne la trouves pas mauvaise? Alors, celle de Kerly du voisinage est bien bonne pour toi, ce beau broyau à 4 gouttes d'essence dans un litre de 3,6. La mienne est plus pure que de l'eau de roche. » Personne d'autre que moi ne touche aux racines ni à l'alambic. Aussi, elle a un parfum, une douceur, elle est bonne pour toutes les maladies, pour les crampes, les indigestions, les rhumes et tout. Demandez voir un peu à Monsieur Prince, le pharmacien. Il vous dira bien que c'est tout ce qu'il y a de plus estomachique. Henri-Louis était complètement sorti de son flegme et s'exprimait avec l'enthousiasme d'un apôtre. Pour lui, la fabrication de la gentiane était devenue un art, et plus qu'un art, un mystère sacré qu'un prêtre d'Osiris n'eût pu accomplir avec plus de solennité. Lorsqu'il tournait autour de son alambic, surveillant les phases successives de la distillation, il faisait en esprit le dénombrement des maux de toute espèce que sa liqueur sans pareille allait soulager, et il se contemplait lui-même avec respect comme un bienfaiteur de l'humanité souffrante. Et comme pour inspirer aux autres la foi, il n'est rien de tel que de la posséder soi-même, la gentiane roulée jouissait d'une grande réputation et faisait des cures merveilleuses. Sans compter que bien des gens prétextaient des maux d'estomac purement imaginaires pour déguster chaque soir un petit verre du précieux breuvage et savourer l'arôme délicat et étrange caché au fond de son amertume. On conçoit que Fritz Jacot fut malvenu avec son éloge plus que modéré. L'indignation de l'artiste en gentiane ne se calma que lorsque Madame Jacot eut raconté elle-même comment ce philtre merveilleux l'avait délivré d'un catarrhe tenace qui avait résisté à une foule d'autres remèdes. « Bien le bonsoir, » dit Henri-Louis en se levant. « Il faut que je m'en aille. Mademoiselle la régente, j'ai une fille qui a 18 ans. Elle doit être à peu près de votre âge, quoi ?»« Pas tout à fait. Mais, pensa Marie, pourquoi le taquiner plus longtemps ?» J'ai 17 ans, monsieur Roulet. Ah, voilà, c'est un peu trop jeune, il me semble. Je n'y puis rien, répondit-elle en riant. Et comme ça, vous vous appelez Laure ? Non, je m'appelle Marie, dit-elle pour le satisfaire jusqu'au bout.
« Ma fille s'appelle Anaïs. C'est un nom encore assez joli, n'est-ce pas ?»«
Sans doute pour ceux qui l'aiment. »
Henri-Louis s'en alla satisfait. Lorsqu'il avait réussi à attraper pendant le jour un ou deux renseignements quelconques, il s'endormait content. Lorsqu'il fut parti, Marie reprit ses livres et Madame Jacquot ses fuseaux. Quelques minutes s'écoulèrent dans un profond silence lorsque tout à coup la vieille dame sortant de ses réflexions
« Il me semble, dit-elle, que Joseph avait un air bien singulier quand je lui ai demandé s'il fumait. Je me repens de n'avoir pas visité sa poche. Qui sait s'il n'y cache pas une pipe? On voit de ses garnements qu'il trouve toujours 5 centimes pour du tabac. »
« S'il fumait, il en porterait l'odeur, dit Fritz, et je n'ai rien senti en le conduisant à l'écurie. »
« C'est égal, il faut que tu ailles voir ce qu'il fait, ou bien je n'aurai plus une minute de tranquillité. Pense donc un peu, s'il allait mettre le feu au tas de paille, ce serait une belle histoire. »
Fritz, en fils obéissant, se leva, alluma le falot et se dirigea vers l'écurie. Au bout de quelques minutes, il revint.
« Il n'y est plus, dit-il, il est sorti par la fenêtre. »«
Oh, le mauvais sujet! Et pourquoi? Je voudrais bien le savoir. »
« Il n'a point laissé de billets pour le dire, répondit Fritz en riant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a décampé. J'ai regardé dans tous les coins et même près du veau, pensant qu'il se serait peut-être couché là pour avoir plus chaud, mais ni vu ni connu, il a filé. J'ai trouvé la fenêtre mal fermée, comme si on l'avait retirée depuis le dehors. » C'est par là qu'il a passé.
Il me semble qu'il n'est pas assez agile pour cela, dit Marie.
Oh, ce n'est pas le saut périlleux. La fenêtre est très basse et il y a en dehors une grosse pierre juste au-dessous.
Les pas sont sûrement marqués dans la neige, s'écria Madame Jacquot. On pourrait savoir ainsi de quel côté il a tourné.
Dépêche-toi d'y aller voir, Fritz, mais prends ton passe-montagne, sans quoi tu t'enrhumeras.
Pendant la courte absence de son fils, la vieille dame se perdit en conjectures sur le motif qui avait poussé Joseph à quitter son chaud abri pour s'en aller vaguer par cette nuit d'hiver, et lorsque Fritz rentra, elle l'interrogea avec sa vivacité habituelle. Il n'avait rien trouvé qui fût un renseignement. Les empreintes, déjà à demi effacées par la neige tombante, longeaient le mur de la maison et se perdaient dans le sentier qui aboutissait à la porte d'entrée. Cependant, le fugitif devait s'être arrêté quelques instants devant la fenêtre de la cuisine, car les empreintes étaient plus nombreuses et plus embrouillées à cet endroit-là, comme si l'on y eût piétiné pendant un certain temps, et 5 doigts étaient distinctement marqués sur le rebord extérieur de la fenêtre. Ah, si, une demi-heure auparavant, la bonne dame Jacquot, vaquant dans sa cuisine à ses devoirs de ménagère, avait pu voir une maigre silhouette se détacher lentement de la muraille, s'avancer avec précaution et allonger furtivement sa tête devant la fenêtre pour plonger dans l'intérieur des regards avides, si elle avait su que cette ombre chétive était celle du pauvre Joseph et qu'il ne souhaitait, avant de s'éloigner, que d'apercevoir encore une fois celle qui avait été bonne pour lui, si elle l'avait vu se pencher sur la neige et tracer d'un doigt malhabile sur cette surface unie, dans le carré de lumière que projetait la fenêtre, les 5 lettres du mot « merci », humble témoignage de reconnaissance que la neige tombante allait faire disparaître, certainement le cœur de la bonne dame eût été attendri. Mais elle ne savait rien de cela, aussi, pendant toute la veillée, ne cessa-t-elle de s'emporter contre l'ingratitude de ces vauriens qu'on a la bonté d'héberger et qui se sauvent en laissant ouverte la fenêtre de l'écurie, ce qui pourrait bien faire gagner à la Blanche ou à la Fleurette une bonne fluxion de poitrine.